Notre réflexion sur à propos de Paul, l'apôtre Paul. Alors, parfois la fatigue m'accable quand je commence les messages. Ne vous étonnez pas. Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est des attaques sur moi? J'ai énormément de contacts au niveau évangélisation, etc. Bon, c'est sûr que parfois l'ennemi me met le sentiment que je suis trop vieux, fatigué, que je ne vais pas faire des vieux os si je continue comme ça, et puis que je devrais arrêter, et toutes sortes de choses comme ça. Je n'écoute pas cela, je me confie dans le Seigneur. À lui appartient la gloire, la force et la puissance. Voilà. Et donc, je m'en remets à lui pour le servir, et j'espère que vous faites de même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà la plus belle des prières, on peut la réfléchir et la méditer toute sa vie. On n'a jamais fini, c'est inépuisable pour moi en tout cas, je souhaite aussi pour vous. Alors, je vais reprendre quelques textes concernant l'apôtre Paul et essayer de les commenter de manière à ce que vous saisissiez la richesse de ce texte. Donc, dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9. Philippiens, c'est une lettre écrite par Paul aux gens de Philippe, à des chrétiens. Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, celle qui vient de l'observance de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu, qui est donnée par Dieu, par la foi. Alors, le mot que je voudrais vous attirer l'attention, c'est « à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ ». Paul a une excellente connaissance de Jésus. Sur le chemin de Damas, Actes des Apôtres, chapitre 9, nous avons vu, mercredi, que le Christ s'est révélé à lui, il l'a vu. Et il dit que c'est une connaissance excellente qui lui a été donnée. Ce n'est pas une demi-connaissance, ce n'est pas du bricolage. Et ce n'est pas quelque chose d'épisodique qui s'est éteint après, qui s'est dilué. Et prenons Galates, chapitre 1. Versets 15 et 16. Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Qu'est-ce que ça veut dire l'excellence? Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, donc son bon vouloir, je ne mérite rien, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas, etc. Donc il a été peut-être un maximum de 3 ans en Arabie, ou peut-être moins, qu'il est resté peut-être assez longtemps à Damas encore, on n'en sait rien, mais toujours est-il... J'attire votre attention sur le fait que Dieu a révélé en lui, en Paul, son fils Jésus. C'est quelque chose de formidable et je vous ai dit que c'est un très grand cadeau que Paul a reçu. Un cadeau incroyable. Pour nous, nous n'avons pas le même cadeau, évidemment. Quand Paul, toute sa vie, a servi Jésus après, il a eu parfois encore des visions du ciel, et il a eu parfois encore des manifestations spéciales de Christ dans sa vie. Il avait une connaissance parfaite de Jésus-Christ. Il vivait avec lui. Donc quand il allait à pied, en bateau, qu'il circulait, qu'il était arrêté, ou qu'il prêchait librement, ou dans l'opposition, il savait que Jésus ressuscité était là, à côté de lui. Même si les autres en face ne voyaient pas Jésus, lui ne le voyait pas à tout bout de champ, mais il l'a vu plusieurs fois, et il savait que Jésus était là et était présent. Cette certitude a conduit Paul, alors que parfois il devait certainement avoir peur et trembler devant l'opposition, et qu'il souffrait de l'opposition. Parfois il a été lapidé, les chrétiens ont prié, il s'est relevé. Donc il a été tabassé et il s'en est toujours remis. Le Christ était à côté de lui et prenait soin de lui. Il avait une mission à remplir pour son maître, son Seigneur, et Paul avait réellement un bon maître, il en faisait l'expérience. C'est quelque chose de formidable, les amis, que peut-être certains chrétiens à travers le monde ont aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y en a qui l'ont. Et à travers les siècles, il y a des chrétiens qui ont eu cette expérience très profonde de la présence de Jésus. Prenons l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 1 et 5. N'ayez pas de complexe si vous ne voyez pas Jésus en allant vous promener, mais il est là. Si vous lui parlez, il est là. Si vous lui confiez vos misères, vos joies, il est là. C'est ça que Paul pouvait affirmer aux autres. Pourquoi est-ce que Jésus ne veut pas qu'on le voit tous pour le moment? Ce n'est pas encore le jour. Peut-être que c'est bientôt. C'est pour que nous ayons le courage de la foi et que nous recevions le don de la foi. Jésus l'a dit à ses disciples, quand il était ressuscité, il a dit à Thomas, « Tu as voulu voir mes trous dans les mains et dans les pieds et sur mon côté. Allez, mets tes doigts. » Et puis Jésus a dit à Thomas, « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Il y a du bonheur à faire confiance. Quand vous marchez sur une petite passerelle dans la forêt et que vous prenez votre enfant d'un an ou deux ans dans vos bras et que vous marchez sur la passerelle, l'enfant a tout vraiment confiance en vous. Il a du bonheur dans sa confiance. Et vous traversez le petit pont et vous allez de l'autre côté de la rivière. Ou alors, c'est une rivière où il y a des gros cailloux, vous sautez de caillou en caillou et vous l'avez sur les épaules, vous le tenez, et il est tout content de traverser la rivière avec vous. Il est possible pour vous de traverser votre existence en étant porté par Jésus, comme un enfant. Il est possible d'être conduit par Jésus dans votre vie comme un aveugle. Vous savez très bien que les aveugles, quand ils peuvent se le permettre, quand la sécurité sociale le paye, ils ont un chien, ils ont une canne blanche, et ils ont un chien qui a été dressé, un berger allemand généralement, et ce chien les guide, ils traversent la route. Le chien regarde s'il y a des voitures, etc. Et le chien voit quand c'est le feu vert ou le feu rouge. Et le chien ne va pas mener son maître à la mort. Et donc la personne circule dans la rue avec son chien, elle peut monter même le train avec son chien, et elle peut être en sécurité, alors qu'elle ne voit pas. Et elle peut se déplacer sans voir. Les amis, il n'est pas nécessaire de voir pour vivre. Mais il est nécessaire de vivre pour faire l'expérience de la confiance et de la foi. Et pour vivre et avoir cette vie en soi, cette confiance en soi qui permet de suivre Jésus-Christ, c'est un miracle en nous. C'est le miracle de l'amour. L'amour que Dieu nous donne en nous, dans notre cœur, la confiance qu'il donne dans notre esprit à l'égard de Jésus, ça s'appelle la foi. Et c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui est donné par Dieu, afin que nul de nous ne se glorifie. On ne prétend pas qu'on est meilleur qu'un autre. C'est Éphésiens 2:8, évidemment. Alors, dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 5, Paul dit ceci, « Il faut se glorifier. Oui, tous les hommes veulent être mis en valeur, mais cela n'est pas bon. J'en viendrai maintenant à des visions, à des révélations que le Seigneur m'a faites. Je fus un homme, il y a 14 ans, cet homme que j'étais a été ravi jusqu'au troisième ciel. Est-ce que c'est avec mon corps, dans mon corps, je ne sais pas. Dieu seul le sait. Je sais que cet homme, donc il parle de lui, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, donc il est impossible de les répéter, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, donc d'une telle situation que j'ai vécue, j'en suis heureux, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, je n'ai pas de mérite. Sinon de mes infirmités, c'est-à-dire de mes doutes, de mes faiblesses, etc., de mon côté humain, comme tous. Mais l'expérience que j'ai faite, elle est formidable. Je n'ai aucun mérite. J'ai vu le paradis. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc Paul a compris qu'il ne devait jamais se mettre en valeur, être mis en valeur, est considéré comme un bonhomme spécial, comme Bernadette à Lourdes ou les voyants de Beaurain, de Banneux, de Medjugorje, etc. Il ne voulait pas ça. La seule personne qui comptait, c'était Jésus-Christ. Voilà. Donc l'excellence, c'est par rapport à tous les humains. Jésus est excellent. Le connaître, c'est la chose la plus excellente, la plus digne, la plus noble qu'on puisse recevoir, nous, en tant qu'humains, parce que nous sommes indignes, nous sommes tous des pécheurs, et nous ne sommes pas excellents. Dans la doctrine biblique, il n'y a pas de saints, Saint Rita, Saint Benoît, etc., Saint Jean, il n'y a que des humains, sauvés par grâce. Il y a un Dieu bon qui a envoyé Jésus pour sauver tous les hommes. Mais Abraham était un pécheur, Rebecca, Esther, David étaient des pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs. Romains chapitre 3, verset 10. Nul n'est juste, nul ne connaît Dieu. Nul n'est intelligent. Lisez Romains chapitre 3, verset 10 et suivant. Et jusqu'au verset 23, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons en nous, peut-être, le miracle. Et c'est cela que je demande pour tous ceux que je rencontre, à qui je fais des études bibliques. Je demande le miracle de l'excellence de la connaissance de Jésus. C'est-à-dire une connaissance venue extraordinairement, qui est venue pas par les facultés humaines, mais qui est donnée par Dieu pour connaître Jésus. Alors, chez Paul, c'était une connaissance totale. Qu'il ait vécu 1000 ans avec lui, qu'il ait vécu les 3 ans en Palestine avec lui, avec Pierre, Jacques et Jean et tous les autres, c'est une connaissance totale. Il connaît Jésus, ressuscité et glorieux. Et vous voyez, quand il a été partout, dans toutes les régions, d'Asie mineure, de Palestine, en Arabie, il était en présence de Jésus ressuscité. Mais vous, comme moi, si nous avons donné notre vie à Jésus, nous croyons en lui, nous sommes en présence de Jésus ressuscité. Il n'y a pas forcément des expériences sensationnelles, extraordinaires comme celle de Paul. Mais en tout cas, le don de la présence de Jésus dans nos vies est réel dès le moment où on l'accepte. Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Si vous réunissez à 2 ou 3, vous êtes assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. » Donc clairement, Jésus a promis cette présence et il ne faut pas en douter. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, le dernier verset, il dit quelque chose de formidable à propos de Jésus. Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Voilà 4 éléments extrêmement importants que Paul a découvert, a compris dans la personne de Jésus. C'est la sagesse, c'est l'art d'obéir à Dieu, c'est l'art de connaître le bien et le mal et de le pratiquer et de ne pas y déroger. Et par obéissance à son Père, la justice, eh bien, c'est de connaître la façon dont Dieu appelle les hommes à être pardonnés. Et Jésus vient pour exprimer cette miséricorde divine et Jésus vient pour mourir sur la croix parce qu'il est, par son sacrifice, l'occasion pour nous de recevoir la justice, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Jésus sait que par lui, nous avons la possibilité d'être pardonnés de nos péchés. Et Jésus, en venant dans nos vies, il est là pour ça, pour que nous soyons la porte, le petit chemin par lequel nous entrons dans la vie éternelle. Mais il est d'une totale humilité. Et Paul le sait, il est d'une grandeur, d'une simplicité, Jésus. Jésus-Christ est grandiose dans son humilité, dans sa pauvreté, grandiose. Et il offre quelque chose d'infini, la justice de Dieu, c'est-à-dire, par sa mort, le pardon de mon péché, de mes péchés, et mon nom inscrit dans le livre de la vie éternelle, pour toujours. Il est pour moi, il a été fait justice pour moi. Et il a été fait sanctification, il est toujours à l'œuvre pour m'aider, pour m'empêcher de pécher, et pour m'empêcher de m'égarer, et pour me corriger. En lisant sa parole, en méditant, en priant, Jésus m'instruit, Jésus me conseille, Jésus aussi me contrecarre, s'oppose parfois. Et il a été fait rédemption, il est possible avec Jésus, de participer à la rédemption du monde, de suivre son œuvre, son ministère, et de s'inscrire dans le même courant, la même façon d'agir que lui. Il faut amener des âmes perdues, des brebis perdues à Dieu. Il faut que les pécheurs n'aillent pas en enfer, qu'ils retournent dans la maison de leur papa. Voilà, ça c'est la rédemption, c'est l'œuvre suprême de Jésus. Et c'est celle-là à laquelle il nous demande de nous intégrer, si réellement nous aimons Jésus, nous l'acceptons tel qu'il est. Alors, tous les trésors sont là, et il y a un don d'un amour ultime en Jésus. Jésus est l'amour par excellence, pour tout le monde, même pour les plus grands pécheurs. Et Jésus est l'amour suprême pour moi aussi. Jésus a été fait amour pour moi, pour vous, pour chacun de vous. Et demeurez dans son amour. L'apôtre Jean le dit, n'hésitez pas, il faut savoir que quand vous rencontrerez Jésus, il peut y avoir des signes dans votre vie, même déjà avant votre mort. Il peut y avoir des signes puissants, visibles ou alors invisible dans votre cœur. Tout d'un coup, un phénomène incroyable dans votre cœur qui peut se passer et qui montre, qui vous fait percevoir, ressentir l'amour suprême de Jésus. Quand Jésus dit dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Comme je vous ai aimé. Est-ce qu'il est nécessaire de douter de son amour quand on voit qu'il s'est laissé crucifier pour nous sans s'opposer, sans haïr les soldats, ceux qui le condamnaient? Alors, dans Jean chapitre 15, verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc il faut entrer dans cet amour, dans ce mouvement d'amour. C'est total. Chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Quand je vais en rue dans les magasins, à la poste, Dans mon coin ici, Virton, c'est un village pour un Virton, mais en ville, je circule dans la rue. Je l'ai fait hier et aujourd'hui. Parfois, je vais en ville. Je vais visiter des personnes pour l'évangile. Et puis, parfois, je m'arrête sur mon chemin auprès des personnes. Eh bien, je ne trouve pas beaucoup de joie. Je ne trouve pas la joie. La joie qui fait vivre, la joie qui donne la santé, la joie qui vient du ciel, la joie qui est l'expression de la vraie expérience de l'amour. C'est dommage. C'est dommage. Ça me touche, ça me peine, et pourtant, je ne me décourage pas. Je pense que Dieu veut nous donner son amour et sa joie. Et sa joie. Alors, que dit aussi Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 17? Au chapitre 17, Jésus dit ceci. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous nous sommes un. L'unité, l'entente, la cohésion, la solidarité, l'amour partagé, c'est ça l'unité, être un. Hein? Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et je sois en eux. Donc l'amour de Dieu est immense. Regardez la création, la merveille d'un petit oiseau, d'un enfant, de la nature, on s'émerveille. Et même que l'homme a abîmé des choses, elle est quand même formidable, cette nature. Eh bien, ça, tout ça, c'est par amour. Et puis, si nous avons la capacité d'aimer nos enfants, alors que nous ne sommes pas bons, pas parfaits, certains jours c'est pénible, on peut le reconnaître. Si on a cette mission d'aimer, et que à certains jours on le fait, c'est noble, c'est grandiose, cette capacité, cette mission d'aimer. Mais c'est que Dieu nous a aimés pour nous donner ce chemin d'amour pour nos enfants et pour nos amis. C'est un chemin d'amour qu'il faut saisir. Mais il faut en trouver le début et la fin. Il faut en trouver la source et l'accomplissement. L'amour prend sa source dans Jésus, dans notre Père du ciel aussi. Et l'Esprit Saint nous accompagne, il nous transforme. Il transforme complètement notre amour humain en un amour comme celui de Jésus, et il nous emmène pour connaître l'amour du ciel, l'amour des anges, des archanges, des saints, des saintes et de Dieu lui-même. Il nous amène à la vision céleste et bienheureuse de l'amour total. C'est cela le plan de Dieu. Alors Paul qui était, j'en reviens à Paul, Paul qui était un homme violent, un homme religieux convaincu que les chrétiens étaient une menace pour sa religion, ça arrive dans d'autres régions du monde, hein. Dans beaucoup de pays musulmans, les chrétiens sont maltraités, pas tous, hein, naturellement, heureusement, mais ils sont maltraités parce qu'ils sont considérés comme un ennemi de la religion. Regardez bien Paul, qui était quand même un sauvage, si on peut dire, même s'il était religieux et sincère. Comment il parle de l'amour après avoir connu Jésus? C'est là que je vois que c'est Jésus qui lui a appris l'amour. Parce que Jésus est l'amour même. Au contact de Jésus, la découverte de l'amour est totale. Et si vous avez votre cœur, votre âme, votre esprit qui est bouleversé par l'amour de Jésus, vous ne pourrez pas vous empêcher d'aimer les autres, même ceux qui vous font du mal, de prier pour eux, de les bénir, de les pardonner. Quand je parlerai, 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de la prophétie, donc de parler de Dieu, la science de tous les mystères de Dieu, toute la connaissance de Dieu, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, soit pour des raisons politiques, des raisons syndicalistes, des raisons, je ne sais pas, de bonté d'âme, humaniste, etc. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, l'amour se réjouit de la vérité, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Donc, il nous faut rechercher le don suprême de l'amour. Mais comment le trouver ? Ben, il faut accepter que Jésus soit dans ma vie. Pas moyen. Je ne peux pas être riche sans avoir le trésor. Si ce trésor du ciel que Jésus vient dans ma vie, je suis l'homme le plus riche du monde. Même si je n'ai qu'une chemise, un pantalon, une paire de souliers. Et je peux avoir la joie de connaître les trésors du ciel. Dans mes prières, dans mes songes, dans mes pensées, il peut y avoir des choses formidables qui se passent. Et je n'ai pas besoin de cachet pour dormir, je n'ai pas besoin de médecin, psychiatre, etc. Et je peux apporter de la joie toute simple aux autres. Alors, l'excellence des révélations, c'est une excellence qui transforme notre vie médiocre en vie excellente aussi. Ce n'est pas une excellence pour rien que les neurones, pour les idées, pour les pensées. Et Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 et suivant, il dit « Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Donc, il avait des ennuis de santé, Satan l'attaquait, mais Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Pour vous, comme pour moi, la grâce de l'amour de Jésus, de la présence de la personne de Jésus peut me suffire. J'avais, dans un groupe d'études bibliques à Attu, il y avait une personne catholique qui faisait partie de la chorale, qui était très aimée dans sa paroisse, et qui s'appelait Désiré, et qui venait aux études bibliques évangéliques, tout en restant catholique. Je n'ai jamais demandé, forcer quelqu'un, moi, c'est une affaire de conscience. Et pratiquement, un jour, nous allions dans une ville très loin, en visite, chez un de ses fils, et c'est une belle fille, et nous devions voir ce qui se passait pour les enfants, qui étaient frappés, etc., qui souffrait énormément, et voir un juge. Mais cette dame dans la voiture me confie, mais Jean, je ne pourrais pas m'occuper des enfants, j'ai 72 ans, 72 ans, j'ai un cancer du sein et je vais mourir. Comment ça, Désiré ? Oui, mon sein est mort. Je savais ce que c'était parce que j'avais travaillé à l'hôpital militaire quand j'étais jeune, à 22 ans. J'étais objecteur de conscience, j'avais demandé à être infirmier. Je ne voulais pas tuer. Et pratiquement, j'avais vu ça. Quand le sein est mangé, il est rentré, il y a un trou. C'est horrible, parfois. Ces choses-là, c'est pénible pour une femme qui a ça. Alors, je dis, mais si Dieu veut que ses enfants viennent auprès de vous pour 10 ans, ils soient bien aimés, bien occupés, qu'ils aient une personne de qualité comme vous, qui a un cœur attaché à Jésus, nous pouvons prier. Jean, si vous voulez, vous pouvez prier, je prierai avec vous. Nous avons prié dans la voiture avant d'arriver là-bas à cette ville, à Charleroi, et nous sommes allés ensuite voir cette famille, et puis nous avons aussi rencontré le juge, et 8 jours après, cette chère amie, cette chère désirée me téléphone, Jean, mon sein est là, mon sein est guéri. Et elle a pu, j'ai pu visiter cette dame, elle a pu élever les petits-enfants qui étaient remplis d'amour par sa grand-mère. Ils étaient remplis d'amour parce que la grand-mère débordait d'amour, parce qu'elle avait Jésus en elle. Et plusieurs années plus tard, elle est décédée, elle était jaune, mais très jaune. Elle avait le cancer du foie. Et j'arrive quelques heures avant qu'elle décède. Et les personnes de sa famille étaient dans la pièce, à l'entour, dans le silence, et consternées, désolées. Et moi je dis, ça peut paraître provocant et maladroit, mais je suis comme ça. Je ne suis pas très conformiste de caractère. Je dis, Désirée, ça va ? En m'approchant d'elle. Elle me répond, oui, je parle avec Jésus. Mes amis, je savais qu'il ne pouvait que sortir quelque chose de bon de la bouche de cette femme. Il ne pouvait sortir que de bonnes choses. Et c'était une chose très importante pour ceux qui étaient là dans la pièce. Oui, je parle avec Jésus. Qu'est-ce que je vous souhaite, les amis ? C'est que comme Paul, vous parliez avec Jésus, que vous soyez avec Jésus, que vous viviez pour Jésus. C'est quelque chose de formidable. Je vous ai toujours dit qu'en commençant une prédication, j'étais très accablé et fatigué. J'ai des fortes attaques. Et puis au fur et à mesure que je donne mes explications, j'ai la pêche, je suis en forme. Et je sais très bien, c'est à cause de Jésus. La grâce de Jésus suffit pour combler parfois toutes les carences que nous avons, toutes les infirmités que nous attrapons. Et Paul le dit clairement dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit quelque chose de formidable pour dire que sa vie a été complètement bousculée, traversée, pas détruite évidemment. Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Donc toute la vieille vie, vous ne savez pas aimer. Il ne connaissait pas Dieu. Il était persuadé de faire des bonnes choses au nom de Dieu. Il ne faisait que des mauvaises. J'étais crucifié avec Christ. Donc quand Christ est mort sur la croix, ma nature pécheresse, mon être de mort, mon être séparé de Dieu, plein d'orgueil et d'impureté et de méchanceté, a été crucifié. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ ressuscité est venu dans la vie de Paul, et a fait de Paul un nouvel homme. Si je vis maintenant dans la chair, donc dans l'humain, je vis dans la foi, donc dans la confiance au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et vous voyez qui m'a aimé. Je pense que c'est fondamental, les amis. Je ne vous prêche pas une religion, je ne vous prêche pas un système de pensée. Je vous invite à vous donner à Jésus et de vous laisser aimer par Jésus. C'est capital, c'est le trésor indestructible. Je ne rejette donc pas la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, c'est l'amour de Jésus. C'est vivre avec lui, pour lui, par lui. Mais on n'est pas étouffé par Jésus. On grandit, les amis. C'est formidable. Donc quand on a été crucifié avec Jésus, c'est parce qu'il y a des choses qui sont détruites, mais Dieu donne des autres choses. Par l'esprit de résurrection, il donne des forces, des joies, de l'espérance, un amour formidable. Rappelez-vous 1 Corinthiens 13. Donc, que souhaiter ? Que souhaitait Paul ? Participer à l'amour de Jésus. Participer, bien sûr, à ses souffrances, parce que servir Jésus n'est pas facile, mais participer à sa résurrection, évidemment, et le rejoindre, être avec lui, le rejoindre. Galates, chapitre 4, verset 13. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois, que je vous ai annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé quand Paul a quitté Éphèse, il était gravement malade, il avait des tremblements, les yeux purulents, etc. Eh bien, un bonhomme pareil, on dit, va, reste chez toi, quand tu iras bien, tu reviendras, hein, t'as le corona, gardons notre distance. Eh bien, c'est pas le cas, c'est que les Galates l'avaient bien reçu, et qu'il avait pu leur parler de Christ ressuscité, et de ce qu'il avait fait, Jésus. au Fils de Dieu en mourant sur la croix pour les Gaulois là, qui habitaient le centre de la Turquie, parce que c'était des descendants de Gaulois, les Galates. Alors, ils ont bien accueilli Paul, ils ont bien accueilli le message d'évangile et des églises ont été fondées, malgré son aspect physique rébarbatif et ses problèmes de santé importants. Donc on voit bien que Jésus n'a pas donné tous les avantages physiques et matériels à Paul, mais l'amour, la grâce, la joie de Christ, Paul l'avait, même s'il était malade. Comme cette brave femme dont je vous ai parlé, oui, je parle avec Jésus. N'oubliez jamais cela. Ça fait partie un petit peu de tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'ai assisté à leur mort. Je suis toujours heureux quand quelqu'un appartient à Jésus. Je le vois tout de suite. Un de mes oncles qui vivait ici au village et qui passait régulièrement à la maison, qui est mort à 95 ans, et qui m'aidait beaucoup dans le jardin, qui m'aidait pour beaucoup de choses. Il venait toujours s'asseoir quand il y avait les camps d'enfants, et qu'il y avait des messages aux enfants et des chants. Et un jour, quand il a été opéré, et il a perdu beaucoup de sang, il a manqué de mourir, et il a dit « j'ai manqué de passer de l'autre côté ». On lui a mis des Baxter, etc. Et puis alors on lui a dit « mais où de l'autre côté ?» Ben avec Jésus. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il m'a aimé, il est mort sur la croix pour moi. Notre oncle, notre brave oncle qui n'avait jamais rien dit ce jour-là nous dit ça. Il y a des personnes extrêmement discrètes qui ont de la pudeur. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne le proclament pas, qu'ils ne le vivent pas. Ça dépend de l'éducation, de la culture qu'on a. C'était un manuel, un homme de cœur. Et plus tard, plusieurs années après, il est décédé. Et quand il est décédé, juste à côté de lui, je tenais sa main, il me regardait dans les yeux. Et il ne savait plus parler, il avait le masque d'oxygène, il regardait vers le haut. Et avec ses yeux bleus, il me fixait, puis il me dit « je monte en haut, je monte en haut ». Je rentre à la maison, et après, les gens, les pompes funèbres m'appellent en disant « on va le mettre dans le cercueil, est-ce que vous voulez le voir avec votre femme ?» Vous verrez, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'on a parfois vu, mais c'est très rare. Venez vite voir avant qu'on referme le cercueil. Donc nous sommes allés voir, et ma femme et moi, on a vu notre brave oncle. Regardez le ciel, ses yeux brillaient de joie. Ses yeux étaient grands ouverts, brillaient de joie, comme s'il voyait Jésus. Et moi, je pense qu'il était en contact et en relation avec Jésus. Il avait tellement entendu le message ici chez nous. J'étais son neveu. Il a certainement hésité tout un temps. Mais à un moment donné, il y a des caps qui se passent. Et cette semaine, mes chers amis, cette semaine, hier, je suis passé chez une personne. Elle était à deux doigts de donner sa vie à Jésus. Elle est sur la lame du rasoir. J'y vais une fois par semaine, mais la semaine prochaine, je vais aller deux fois. Je vais même précéder ce jour-là. J'irai deux fois. Pourquoi ? Parce que je vais lui demander, écoutez, est-ce que vous donnez votre vie à Jésus ? Allez, avec tout ce que j'ai entendu, je vais prier pour cela et je vais lui demander. Parce que je lui ai dit, vous êtes tout près de le connaître. Demandez-lui, parlez-lui. Demandez-lui qu'il révèle son amour, sa sainteté à vous. Et peut-être que c'est déjà fait, peut-être qu'elle est convertie, je n'en sais rien. C'est une immense joie pour moi pour voir quelqu'un qui a découvert la vraie vie, la source de vie éternelle. Et ce brave Jésus, que j'aime tant. Alors l'héritage c'est Jésus. Et dans Philippiens, chapitre 3, verset 20. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Oui, c'est le cas. Hein. Moi, je viens de traverser une ville là, pour rejoindre une dame. Il n'y avait pas moyen, plein de travaux avec ma canne, en souffrant, hein, et en portant un paquet, en lui apportant de la soupe, des fraises, enfin des choses de la part de ma femme, de notre jardin. Hein, l'amour de ma femme est grand pour tous ceux que je visite. Alors, le corps d'humiliation, je sais ce que c'est maintenant. Je le vois hein, depuis un an ou deux. Donc, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Les amis, Dieu a le pouvoir, aujourd'hui ou demain, en tout cas au jour où il revient, au jour de la résurrection, de faire disparaître tous les maux, les deuils, les chagrins, les misères. Il y a un an et demi, mon bras droit était complètement inerte, tous les ligaments déchirés, et le médecin, un adventiste m'a dit, monsieur, me regardait, je lui dis, vous n'êtes pas fier, vous n'avez pas envie de l'opérer. Je dis, c'est mieux comme ça, c'est plus sage. Et il me dit, il faudrait attendre la résurrection. Je sais que je peux attendre la résurrection, mais je sais aussi que le ressuscité est là, je vis avec lui. Donc je peux lui demander. Et je lui ai demandé, et j'ai fait des exercices. Et mon bras droit remarche sensationnellement, formidablement. On verra bien pour le genou droit, s'il faut que ça soit jusqu'à la résurrection, on verra. Toujours est-il que nous devons confier tous nos problèmes à Jésus. C'est à lui de décider. Ne lui imposons pas nos caprices. Mais si il a jugé bon de vous épargner quelque chose, comprenez pourquoi. C'est que vous avez quelque chose à faire encore pour lui. Rejetez le vieil homme. Rejeter le vieil homme. Oui, Paul a décidé de rejeter le vieil homme. Parce que le vieil homme, malgré qu'il connaît Jésus, il connaît l'amour divin, le vieil homme revient toujours à la charge. Pour vous comme pour moi, en aimant Jésus, en aimant sa parole, la vieille nature revient toujours. Elle nous empoisonne. La bête ne veut pas mourir. La nature adamique ne veut pas mourir. Nous avons en nous quelque chose qui est malhonnête vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'Évangile. Et cela, c'est le vieil homme, comme l'apôtre Paul l'appelle. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur Jésus. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon l'orgueil de leur pensée, la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à vie de Dieu, ils ont plein d'ignorance en eux, et leur cœur est endurci. Ils ont perdu tout sentiment, ils se livrent à la dissolution, ils commettent toute espèce d'impureté jointe à l'amour de l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Jésus-Christ. Alors je vais un peu plus loin, et Paul invite à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc Jésus produit en nous un être nouveau. Et il explique tout cela. Vous pouvez lire Éphésiens 4, verset 17, jusqu'à la fin du chapitre. Et vous verrez que l'œuvre de Dieu en nous, c'est d'être nouveau, renouvelé, changé, pas amélioré. Pas amélioré. Améliorer, ça veut dire je reste comme je suis, on rajoute un peu des fraises sur le gâteau, un peu de sucre fin sur la tarte ou de la crème sur les épinards. Vous comprenez? Mais si les épinards sont sûrs, la crème, elle ne fait rien. Si le gâteau est raté, eh bien, la cerise qui est dessus, ça ne sert à rien. Donc, il faut absolument, absolument, les amis, que tout soit changé en nous. Et l'héritage, c'est une vie nouvelle. Et c'est une cité nouvelle, un rendez-vous avec le Seigneur ressuscité qui nous donne un corps de gloire. Donc, on revêt Jésus, on est illuminé dans notre cœur, on est illuminé dans nos pensées, on voit clair dans nos cœurs. Éphésiens chapitre 1, ce qu'on ne voyait pas avant, on le voit. Ce qu'on ne comprenait pas, on le voit. Je ne cesse de rendre grâce, chapitre 1 d'Éphésiens, chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans toutes mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc connaître Jésus, et recevoir un esprit de sagesse, parce que vous savez, on n'est pas facilement sage, hein, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah voilà. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache au Saint-Appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Jésus est tellement puissant qu'il peut tout transformer en nous. Rappelez-vous ce que j'ai dit pour Désiré, il était tellement puissant qu'il lui a laissé 10 ans de vie encore pour qu'elle s'occupe de ses petits-enfants. Et son cancer était guéri. Pas de rayon, pas de chimiothérapie, guéri. Pour servir Dieu, pour enseigner Dieu aux enfants, et pour témoigner à sa mort jusqu'à la dernière minute, oui, je parle avec Jésus, devant ses enfants, devant les autres personnes. Donc, Paul a reçu la lumière de Jésus, il connaît sa divinité, il connaît sa personnalité, et c'est pour ça qu'il dit dans Romains chapitre 1, mais qu'on voit la majesté de Dieu, sa personnalité, sa divinité, comme à l'œil nu à travers la création. Donc, Jésus a révélé à Paul que tout ce qui était créé était dans ses mains et était le fruit de sa lumière, de sa puissance, de sa riche personnalité. Et Paul veut en faire comprendre, en donner, le partager, en faire connaissance aux autres qui sous-estiment Dieu et sa sainteté. Paul veut faire connaître la souveraineté et l'autorité de Jésus. Il sait qu'il peut avoir la victoire contre Satan. Il sait qu'il peut avoir la victoire contre le péché. Et vous ? Il sait que Jésus est mort et ressuscité pour lui, pour ses péchés. Il est pardonné. Il ne vit pas dans la culpabilité et l'angoisse. Et vous ? Il vit dans son amour. Et c'est absolument indispensable pour lui de rester dans son amour. Son nouvel être en dépend. D'être toujours inondé par son divin amour. Et vous, et moi. Et Jésus a aussi confié quelque chose à Paul qui est grave, c'est le combat contre les ténèbres. Le combat contre les ténèbres, les amis. Et c'est pas rien, les ténèbres. Il y a plein de mal sur la terre. Il y a plein de mauvaises choses. Et il y a des gens qui aiment faire le mal. Il y a des systèmes, des organisations qui font le mal. Et nous voyons bien que le monde ne va pas mieux. Même si le coronavirus est passé, on a vite oublié. On retombe dans les mêmes chemins. Et si je prends l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 12, voici ce que Paul dit. Le même Paul que le chemin de Damas. Bien sûr, c'est toujours le même Paul. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, donc dans Jésus, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, donc de Satan et du péché, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand je veux aller en Afrique, au Bénin, visiter des frères, je prends l'avion, je suis transporté. Quand je vais en Israël, voir le tombeau de Jésus, et voir les lieux où il a vécu, où les prophètes ont vécu, je vais en avion, je suis transporté. Par moi-même, je ne peux pas y aller. Alors, quand je m'en vais à Rome, je prends ma voiture. C'est ma voiture qui me transporte. Donc, Dieu a pris Jésus pour nous transporter du monde du péché, du monde obscur de Satan, dans un royaume de paix, d'amour et de lumière. C'est lui qui fait le pont entre le monde perdu et le monde de la vie. C'est lui qui a établi le pont. C'est lui le médiateur. Et donc, n'oublions pas, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est quand même formidable, le Fils de son amour. Et de notre amour. Donc ontologiquement, c'est-à-dire existentiellement, je suis mis au tombeau en Jésus-Christ, toute ma vie est morte, et je ressors, je suis vivant, je vis avec Jésus ressuscité. Voilà le sens du baptême que nous avons à la croix de Jésus. Et Paul n'a pas demandé à Jésus d'être présent chaque fois sur la place à Éphèse, à Corinthe, quand il prêchait, visiblement. Il ne lui a pas demandé de prendre la parole à sa place. Il a dû parler, Et même s'il savait que Jésus était là avec lui, il a dû parler et les hommes ne voyaient que Paul. Les femmes ne voyaient que Paul. Les enfants, les vieillards, les soldats, les commerçants, les prostituées ne voyaient que Paul. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient percevoir de Jésus alors? Eh bien, ils percevaient par la parole que Jésus, que Paul apportait. La parole que Paul apportait, c'est l'évangile. Jésus est venu pour tes péchés. Selon les Écritures, les prophéties de l'Ancien Testament, il expliquait. Il était mis au tombeau, il est ressuscité, il est vivant. Rien que cela, Paul a amené des foules à abandonner la sorcellerie, l'occultisme, la prostitution. Il a fondé des églises. Parfois, Dieu a donné des miracles. Mais pas à chaque fois. Parfois, Dieu a donné beaucoup de conversions à une place. Parfois pas. Très peu. Donc, Paul a dû se confier dans la parole. Seulement la parole. Et c'est quand même quelque chose de dur. Pourtant, les amis, c'est ce qui nous reste aussi, la parole. Et c'est l'outil par lequel nous devons servir le Seigneur Jésus aussi. Romains chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, donc de tous les hommes. Parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu, donc le pardon de Dieu pour les pécheurs, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » C'était une prophétie de Habacuc, 8e siècle avant Jésus, où Dieu avait annoncé, « Celui qui est pardonné de ses péchés par moi peut vivre avec moi en communion éternellement, rien que sur la base de sa foi, sa confiance en moi. Il n'a pas besoin de me voir, il vit, et un jour il me verra. » Donc, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. » Donc, la petite arme, si on veut, par rapport aux opposants, par rapport aux incrédules, par rapport à tous les autres, avec leurs manies, leurs habitudes, leurs traditions, la petite arme, c'est l'annonce de l'Évangile. Et pourtant, Paul dit, elle est puissante. Et effectivement, il a établi beaucoup d'églises, il a amené beaucoup d'âmes au Seigneur, à la vie éternelle. Et cette parole, elle est formidable, c'est comme ça que Jésus a voulu, un petit moyen qui devient un grand moyen. Si nous prenons la première aux Corinthiens, un petit moyen qui, pour Dieu, nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve, il nous demande plus de foi quand on le sait. Le petit moyen devient un grand moyen, sans que ça dépende de nous. Vous comprenez? Sans qu'on puisse s'en glorifier. Sans qu'on puisse dire, ah, c'est grâce à moi qu'ils sont convertis. C'est grâce à moi que cette église-là a été faite. C'est grâce à moi que les pauvres ont été aidés. C'est grâce à moi qu'ils sont heureux, etc. Ça ne compte pas tout ça. C'est seulement la parole de Dieu qui compte. Alors, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Un Corinthiens, chapitre 1, verset 17. C'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans la sagesse du langage. Chez les Grecs, on parlait avec beaucoup d'intelligence, la rhétorique, hein. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La prédication de la croix de Jésus est une folie pour ceux qui périssent, donc ceux qui sont séparés de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous avez vu? Parler de Jésus à sa mort et à sa résurrection pour le salut du monde, c'est une puissance de Dieu. C'est quand même incroyable d'oser affronter ce monde buté, obstiné, orgueilleux, pourri dans le péché, avec si peu de moyens. Petits moyens, grands effets. Très grands effets. Le salut éternel d'une multitude d'hommes. Alors, je lis un peu plus loin. Verset 21. « Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc, l'annonce de l'Évangile. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent la sagesse. Nous, donc Paul, Apollos, d'autres, Pierre, Jean, Jacques, etc., les apôtres, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Pour ceux qui sont appelés. Donc partout où nous allons, il y a des personnes qui sont appelées par Dieu. Sans doute, puisque vous regardez, soit vous avez été appelé et vous avez déjà répondu, soit vous êtes appelé et vous n'avez pas encore répondu. Alors, je vois au verset 25, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est une folie pour Dieu, de simplement ce petit moyen-là. C'est une folie, ça paraît dingue que Dieu ne prenne que ce moyen-là pour sauver les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de m'as-tu vu, il n'y a pas de radio-télévision, il n'y a rien. Et le petit Jésus de Nazareth, mort à la croix, est ressuscité pour nous, pour nos péchés, qui nous donne le Saint-Esprit. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Tout paraît faible quand on est vraiment un chrétien. Ce n'est pas les chrétiens des basiliques, des cathédrales, des croisades, du Vatican ou de grands systèmes protestants, catholiques, peu importe. C'est le Jésus de Nazareth. C'est ce petit homme dans Ésaïe 53 qui n'avait ni beauté ni éclat, qui était rejeté et qui était méprisé, mis à la croix pour nos péchés, qui a porté nos péchés, qui a ressuscité. Voilà, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. On sait très bien que la force des hommes n'ira pas loin. Elle est en train d'échouer. Donc la prédication de l'Évangile a un effet puissant, alors que, sur le principe, elle n'est pas grand-chose par rapport à tous les moyens fous que le diable utilise pour entraîner les hommes dans l'enfer. Alors nous, comment ? Recevoir Jésus et le croire, oui. Ça paraît si simple. Pourtant, en Europe, en Occident, dans nos pays, beaucoup ne veulent pas. C'est très simple. Il faut mettre son orgueil de côté et savoir qu'on ne va nulle part avec notre péché. Nulle part. Avec notre nature pécheresse. Accepter Jésus. L'aimer plus que moi-même. Et lui dire... Même si je ne sais pas encore s'il va apparaître dans ma vie, se révéler, je t'aime. Je sais que tu m'as aimé, le premier, de toute éternité. Et que tu as donné ta vie pour moi. Lui dire, Seigneur, révèle-toi en moi. Fais-moi connaître ta personne. Fais-moi connaître par ton Esprit Saint. Car je suis un aveugle, fais-moi voir. Je suis un sourd, fais-moi entendre ta parole. Fais-moi connaître ta personne dans toute sa plénitude, dans toute sa richesse vivante, Seigneur. Je veux te connaître complètement. Je veux être passionné de toi. Je veux vivre de toi. Et je ne veux jamais être fatigué de toi. Je veux être transfiguré, changé. Je veux avoir une vie heureuse, même si j'ai des tuiles et des ennuis tout le temps. Je veux être heureux parce que je suis avec toi. Je veux t'obéir. Je veux être comme tu veux que je sois. Je veux te glorifier, que tout soit à ton avantage dans ma vie. Parce que tout ce qui est à ton avantage sera meilleur que ce que j'ai essayé et qui est médiocre. Et je veux te partager à ma famille, je veux te partager à mes enfants, je veux te partager à mes parents, je veux te partager à mes amis, à mes ennemis. Mais je ne sais pas encore comment, Seigneur. Mais tu t'en chargeras, tu m'apprendras. Ça prendra le temps. Je suis un tout petit enfant, tu m'apprendras tout, Seigneur. Mais je veux te partager. Je veux avoir une vie avec des vrais frères, des vraies sœurs. J'en ai marre des fauchetons, des hypocrites, des arrivistes, des profiteurs. Je veux trouver des vrais hommes, des vraies femmes qui vivent comme tu l'as demandé, qui sont habités de toi, pour avoir des vraies sœurs et des vrais frères sur la terre. Je ne veux plus être déçu par des hommes qui mentent, tôt ou tard. Je veux des hommes renouvelés, changés. Seigneur, S'il y a des hommes et des femmes pieux dans ma région, donne-moi de l'amour pour eux, que je m'approche d'eux, que j'observe, que je regarde. Et si je te vois, toi, Jésus, en eux, alors montre-moi que c'est mes frères et mes sœurs. Apprends-moi à être efficace quand je prie. Apprends-moi à voir des résultats quand je prie. Je ne sais pas prier, Seigneur, mais montre-moi comment il faut faire. Seigneur Jésus, je veux être enlevé un jour, avant que le monde ne se détruise complètement, avec Satan, sous la puissance de Satan et de l'Antichrist, son représentant sur terre. Je veux être enlevé avec tous les saints, avec tous les frères et sœurs qui t'ont aimé. Je veux être préservé de ce drame qui s'approche. Je ne veux plus être sur le faux chemin. Et Seigneur, je sais bien que croire, ce n'est pas des sentiments. Croire, ce n'est pas des peurs, ce n'est pas du plaisir. Croire, c'est quelque chose que tu mets dans mon cœur. C'est une force d'aimer, de t'aimer. Ça vient de toi. Croire, c'est un miracle en moi. Seigneur, c'est plus que moi-même, croire. Ça dépasse, c'est pas par intérêt. C'est un miracle en moi, croire. La foi, Seigneur, la foi, je te demande ce miracle. Et je ne veux pas avoir la foi pour un pasteur, pour un prêtre, pour une église. Je veux avoir la foi à cause de toi, Seigneur Jésus. Par toi, en toi, pour toi. Ô Seigneur, chasse loin de moi mes fausses sagesses. Conduis toutes mes fausses sagesses, mes croyances et tout ça dans les cendres de l'enfer. Et donne-moi tes vérités. Donne-moi tout ce qui se passe dans ton cœur, Seigneur Jésus. Donne-moi tout ce qui se passe dans ton cœur, dans ton esprit. Je veux vraiment en faire l'expérience. Voilà. Chers amis, c'était la passion que Paul avait tous les jours, toutes les nuits, pour son Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, qui l'a emporté dans une nouvelle vie. Et je pense que si vous lisez, pour d'autres jours, lundi, mardi, si vous lisez Actes chapitre 9, après vous commencez dans les Actes au chapitre 13. Vous lisez chapitre 13, versets 14 et 15. Pour que quand je vais vous expliquer des choses, ça aille un peu, il y ait des bases. Donc le chapitre 9, les chapitres 13, 14 et 15. Par la suite, donc c'est pour lundi. Pour le mercredi, il y aura d'autres chapitres. Nous ferons tous les passages où on parle de Paul sur les trois jours de la semaine prochaine. Et nous allons voir la vive passion, la grandeur de l'âme de Paul. Parce que le Seigneur Jésus était grand en lui. Et mon souhait, c'est que vous ayez une vie merveilleuse, que le Seigneur Jésus qui est merveilleux soit en vous. Ne ratez pas votre vie, les amis. Ne la ratez pas. Je suis souvent très malheureux quand je vois des gens rater leur vie. Parce que je ne me réjouis pas de voir des personnes aller en enfer et tout rater, même des gens sur terre ici. Je me réjouis en Jésus quand ils sont dans la vraie vie. Que ce soit votre passion aussi. C'est la seule bonne passion qui ne détruit pas. Amen.